Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 175 pour le 2 octobre 2012. Le scientisme. Dans cet épisode, je vais vous dire un petit mot concernant le concept de scientisme, hein, pas de scientiste. De scientifique, mais scientisme, parce qu'on reproche souvent aux sceptiques d'être des scientistes. Récemment encore, sur la page Facebook des fans du balado, dans la discussion autour des OGM, comme je critiquais les anti-OGM, donc les gens qui sont contre les OGM de manière générale et aspécifique, on me reprochait « Ah, mais vous êtes juste un... » Enfin, les sceptiques sont juste des scientistes. Et, je trouve déjà que ça montre un peu qu'on ne comprend pas le sens du mot, donc je pense que ça vaut la peine qu'on en discute un petit peu. Mais avant ça, je voulais évoquer deux, trois choses, un peu de l'actualité. Alors, récemment, on a eu l'épisode que vous avez écouté, en fait, la semaine dernière. Donc, on a recommencé la deuxième saison de Bruxelles Sceptique au Pub, avec une conférence consacré au bouddhisme, puisque vous avez pu l'entendre, et on a été très heureux de faire ça le comble. Bon alors, on est dans un petit café près de la grande place de Bruxelles qui s'appelle La Fleur en papier doré, et on est dans une petite salle, hein, donc ça le comble. Dès qu'on est aux alentours de 20, on fait ça le comble. Mais malgré tout, c'était la première fois qu'on montait un aussi gros nombre. On avait déjà été pas mal en juillet, pour le barbecue sceptique, hein, organisé chez Alain, donc qui est un des amis sceptiques qui m'aide à organiser Bruxelles Sceptique au Pub. Et donc c'est vrai que, lentement mais sûrement, le groupe des sceptiques à Bruxelles se constitue. On voit des têtes qui reviennent et qui s'investissent un peu dans le groupe et dans les discussions. Alors évidemment, sur le bouddhisme, il y avait pas mal de gens qui étaient venus parce que ces personnes s'intéressaient au bouddhisme et qu'elles connaissaient la conférencière. Donc on était peut-être moitié-moitié, 10 habitués de Bruxelles Sceptique au Pub et 10 bouddhistes. Et donc ça a donné lieu à une conversation intéressante aussi après la conférence. Parfois les séances de questions-réponses sont encore plus intéressantes. C'est même pas le plus souvent, hein. Les séances de questions-réponses sont toujours assez fascinantes à Sceptique au Pub. Donc voilà, juste pour dire, c'est vrai que bon, l'année dernière, on avait du mal à attirer des gens. On a fait des conférences, il n'y avait vraiment pas grand monde. On est descendu à 2-3, il y avait Dorian et moi. Mais c'était pas toujours très gai, évidemment, surtout parce qu'on invite quelqu'un à venir parler et puis il n'y a personne en face de lui, c'est toujours délicat. Mais on a l'impression que ce temps est passé quelque peu, et que maintenant il y a vraiment un groupe qui s'est constitué. Aussi au niveau de l'organisation, je suis plus tout seul. Enfin, vous entendez souvent la voix de Dorian, et alors il y a Joël et Alain, enfin toutes des personnes qui gravitent, et Thomas Hanson aussi qui donne un coup de main. Donc prendons à César ce qui est à César, c'est Dorian Nerdal qui est le plus actif pour aider à l'organisation. Il est maintenant tout aussi actif que moi à l'organisation de ce groupe. Et c'est vrai que j'avais lu, quand j'avais voulu lancer Bruxelles Sceptique au Pub, il y a une sorte de PDF qui explique comment lancer un groupe sceptique dans une ville. Et il disait, bah oui, il faut le lancer. Et puis, assez rapidement, vous verrez qu'il y aura un groupe qui va se constituer pour vous aider. Et je pense que c'est ce qu'on observe maintenant. Et pour moi, l'objectif, évidemment, c'est que plus le groupe tourne sans mon implication, mieux c'est, puisque je suis déjà très occupé comme ça avec le balado et mes autres activités. Mais voilà, en tout cas, une rentrée en trombe pour Bruxelles Sceptique au Pub, et on espérera que ça continuera comme ça. Avec ce mois-ci, la conférence sera sur la thèse mythiste, donc est-ce qu'il y a eu un Jésus historique ou non. Et je pense qu'on sent déjà pas mal d'intérêt du côté des amis athées qui s'intéressent justement à la thèse mythiste. Ça, c'était le week-end passé, le vendredi soir. Et alors, le dimanche, je suis allé sur Paris pour une interview pour la chaîne M6, pour une émission. Voilà, c'était toujours intéressant. On avait été contacté, Enfin, j'avais été contacté via mon blog, mais j'avais aussi vu passer la même demande du côté de l'Observatoire zététique et même, je pense, de. Je suis pas membre de la FIS, mais je crois que la FIS avait relayé vers l'EZ la même demande. Donc la dame cherchait vraiment, enfin la journaliste en question cherchait vraiment à avoir en sceptique. Alors ça soulève toujours la question de la participation aux médias. Bon, dans les groupes, généralement, en tout cas à l'EZ, je sais que. Au comité para aussi, quand j'en étais membre. Ça soulève toujours beaucoup de débats. Personnellement, je ne comprends pas que ça fasse débat. Je fais partie de ceux qui disent, ben oui, évidemment qu'il faut qu'on aille répondre aux demandes des médias. Alors évidemment, le contre-argument, c'est que généralement, on se fait charcuter par les médias ou ben, on est sujet à la manière dont ils vont éditer. Moi, peut-être que quand j'ai pas encore vu le produit fini de l'interview que j'ai fait la semaine dernière. Mais peut-être quand je vais le voir, je vais être horrifié par la manière dont la journaliste a édité le bazar. Et puis souvent, bon, il y a aussi l'aspect, on enregistre pendant des heures et puis on passe 30 secondes où on est complètement coupé au montage. Donc dans les milieux sceptiques, il y a souvent cette idée, enfin ces anecdotes de mauvaises expériences, de mauvaises expériences avec les médias. Mais malgré tout, personnellement, j'ai toujours été de l'avis que si les médias nous demandent, il faut y aller parce que si on n'y va pas, ben alors ils vont se rabattre sur d'autres personnes qui seront certainement beaucoup moins sceptiques que nous. Donc, je pense que ça fait partie de ce que les sceptiques font, hein. C'était Michael Shermer qui disait, les scientifiques ne débattent pas les tenants des pseudosciences, mais ben, c'est ce que les sceptiques font, c'est notre job, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Donc, si on va pas sur les plateaux de TV. Ou radio, qu'on répond pas aux journalistes de la presse écrite. Dans un sens, on fait pas notre travail. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu, c'est que ce n'était que ma deuxième expérience TV. Florent Martin de l'Observatoire Zététique a beaucoup plus d'expérience que moi avec la télé. Moi, ma première expérience était il y a probablement presque une dizaine d'années, je crois que je devais avoir. Quelque chose comme 28 ans, je suis plus très sûr de l'année. C'était avec la RTBF, l'émission scientifique de la RTBF, qu'on a contacté le comité para pour une émission, pour son émission scientifique qui s'appelait Matière grise, parce qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait présenter. Il voulait faire une réplication de l'expérience de Forer. Donc il nous avait contacté pour ça. Et effectivement, ça avait généré beaucoup de discussions à l'époque. Bon, de toute façon, c'est toujours un point. Il y a toujours des gens qui mentionnent que je fais partie du comité para, mais ça fait des années que je ne fais plus partie du comité para parce que j'étais pas en adéquation avec la manière dont ils approchaient les choses. Disons que le comité para, ça fait partie de ces groupes qui ont connu leur heure de gloire il y a très très longtemps. Hein. C'est un peu comme. La SOBEPS avec la vague belge, ou le comité de para, c'était avec l'affaire Gauquelin, donc dans les années 60-70. Mais depuis, c'est un groupe qui vivote, et bon, je pense que ça vaudrait la peine de le redynamiser, mais le CA est vieillissant, et enfin, moi, quand je faisais partie du comité para, quand je proposais de faire des choses activement, le CA s'opposait plus, le comité d'administration s'opposait plus à toutes mes tentatives. De dynamiser les choses. Alors, je sais pas. Bon, il y avait aussi le fait qu'ils étaient. Enfin. Il y avait des discussions autour du fait que c'était des. Donc, c'était des astronomes, et moi, j'étais quelqu'un qui représentait les sciences humaines, et bon, apparemment, les sciences humaines, ils n'en avaient pas une très grande opinion. Et comme c'était. Par exemple, sur cette émission sur l'astrologie, ils ne comprenaient pas pourquoi ils voulaient un psychologue et pas un astronome pour parler de pourquoi l'astrologie est une pseudo-science. Mais évidemment, si l'émission de la RTBF voulait reproduire l'effet Forer, qui est une expérience de psychologie, c'est normal qu'il voulait quelqu'un en sciences humaines et pas en sciences exactes, mais ça posait problème. Quoi qu'il en soit, de toute façon, dans ma liste des groupes que je veux inviter à Sceptique au Pub, cette année, il devrait y avoir une conférence du comité para pour parler de ses activités. Et donc, j'espère un peu retisser des liens avec le comité para. C'est le plus vieux groupe sceptique au monde, puisqu'il date de l'après-guerre, hein. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y vote. Il faudrait le relancer, quoi. Donc, on va voir. Maintenant qu'on a un peu qu'on a un peu démarré sérieusement sceptique au pub. On verra s'il y a moyen de travailler avec le comité parrain. Enfin, de toute façon, il faut savoir qu'en Belgique, il y a aussi le SCEP, qui est l'organisation sceptique néerlandophone, et eux, ils sont super actifs. Il faudra aussi que j'invite un jour, en tout cas à Bruxelles, sceptique au pub, et donc vous entendrez aussi éventuellement la conférence, le président du SCEP, enfin un des membres du SCEP. Il y en a plein qui parlent couramment français, donc je pourrais les inviter. Ils étaient par exemple, il y en avait plusieurs du SCEP qui étaient à Berlin pour le congrès sceptique international, alors qu'évidemment du comité para, il n'y avait personne. Hein, ce qui montre déjà, le SCEP était en force, ils avaient quelqu'un a fait une intervention d'ailleurs. Un membre du SCEP a donné une conférence, et du comité para, évidemment, il y avait strictement personne. Je me suis un peu égaré dans ce que je racontais, mais... Ah oui, je parlais donc des expériences TVB. Oui, donc avec la RTB, on avait reproduit enfin, l'expérience qui prouve l'effet Forer. Et bon, le résultat était super. Bon, évidemment, c'était l'émission scientifique de la RTB qui est d'extrêmement, enfin, qui était, je ne sais pas, je pense pas qu'elle existe encore, mais qui était d'extrêmement bonne qualité, donc j'étais pas fort inquiet de ce côté-là. Donc la semaine dernière, là, c'était pour M6, c'était pour un magazine pas scientifique, donc bon, on verra le résultat final. Mais non, mon impression générale a été c'est positif, mais c'est un exercice vraiment intéressant à faire. Bon, on enregistre 2 heures ou 3 heures, enfin plus de 2 heures pour quelque chose qui va être quelque chose, peut-être 3 minutes à l'antenne ou probablement moins. Et c'est vrai qu'il faut vulgariser, vulgariser, vulgariser. Et c'est assez hallucinant puisque je suis arrivé en me disant je dois vulgariser. Mais malgré tout, de manière assez justifiée, je pense, la journaliste me faisait reformuler les choses pour que ce soit plus court et plus simple. Mais c'est difficile. Il y a le problème du fait que quand on doit exprimer les choses simplement et de manière courte, on risque de... Ben, on perd beaucoup de nuances, je trouve, beaucoup d'incertitudes. C'est beaucoup plus facile de dire... Oui, c'était donc une interview sur les médiums. Beaucoup plus facile de dire les médiums sont tous des charlatans que de commencer à se lancer dans de longues explications sur le fait qu'il y a des expériences qui ont été faites, blablabla, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident, moi, j'ai trouvé. Je voulais au programme, il y avait le phénomène des voix électroniques, donc je voulais parler des pareidolies auditives. Enfin, j'ai parlé des pareidolies auditives, mais malheureusement, bon, de ce côté-là, c'est une professionnelle, donc je pense qu'elle a raison, mais la journaliste préférait qu'on parle. Alors, elle m'a suggéré hallucination auditive parce que c'est ce qui est utilisé sur YouTube, mais évidemment, c'est pas un terme correct. Parce que c'est pas des hallucinations, vu que c'est des illusions auditives, puisqu'il y a stimulé, hein. Une hallucination, c'est une perception sans stimulé. Une illusion, une perception avec un stimulé. Donc, je crois que j'ai dit 2, 3 fois par erreur hallucination auditive, parce que j'essayais de. Enfin, vous êtes devant la caméra, et quand on doit tout gérer, c'est pas évident. Et puis, je me suis rattrapé. J'ai commencé à dire illusion auditive. Alors, peut-être qu'au montage, je vais me retrouver à dire plusieurs fois. Hallucination auditive, bon, une partie de moi va pas être content parce que c'est pas correct. C'est illusion auditive. Mais donc, d'un certain côté aussi, le pédagogue, moi j'avais envie de dire oui, mais il faut expliquer aux gens quoi, le pareidolie auditive, c'est juste un mot quoi. Mais donc voilà, il faut toujours simplifier. Enfin, pour les médias de ce type-là, c'est vraiment extrêmement. Enfin, c'est vraiment pas évident de simplifier. Et honnêtement. Enfin, je veux dire, moi, enfin, j'ai toujours été épaté par les gens comme Michael Shermer ou, enfin, qui arrive, oui, Michael Shermer ou, enfin, les grands débatteurs américains, Sam Harris, Christopher Hitchens, qu'il est encore vivant. Ces gars, ils savent parler de manière courte, efficace. Ils trouvent les bonnes formules. Enfin, évidemment, ça s'apprend aussi enfin, ça vient avec la pratique, mais je pense, c'est vraiment pas une chose facile. Même Florent Martin, je trouve qu'il fait du bon boulot. Il est probablement plus télégénique que moi, comme je l'ai dit. Mais voilà quoi. Bon, de toute façon, le problème c'est que bon, maintenant je suis membre de l'EZ, mais la plupart des choses sont sur Paris, mais l'EZ est loin de Paris. Donc finalement, moi en habitant près de Bruxelles, c'est encore moi qui suis le plus près de Paris pour un déplacement. Donc voilà mon expérience de la semaine dernière. Voilà, simplifier, 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 raccourcir, 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 oui, mais c'est vrai que c'est dommage, l'aspect nuance qui se perd. Alors aussi, dans ce tournage, il y avait des extraits de... Bon, la journaliste avait été filmée des médiums, donc j'ai découvert sur place, sous la caméra, elle voulait m'enregistrer un peu mes réactions à chaud comme ça, en voyant les médiums. Et je dois dire que... Enfin, vous savez, moi j'ai eu l'habitude de regarder, par exemple aux États-Unis, les médiums célèbres comme John Edwards, hein, qui sont... Enfin, John Edwards, à mon avis, bon, il sait bien... C'est quasiment certain qu'il sait bien qu'il utilise la lecture froide, mais quand on sait qu'on utilise la lecture froide et qu'on ment aux gens, on peut étudier et maîtriser la lecture froide à un niveau beaucoup plus élevé, hein. On peut mettre en mémoire toutes sortes d'informations qui vont être utiles, par exemple, quels sont les noms les plus courants par tranche de 5 ans. Ou... Et alors on met toutes ces informations en mémoire pour être capable de les ressortir au moment opportun, durant la voyance. On utilise ces informations-là, mais. Mais les gens qui sont sincères et qui ont découvert la lecture froide sans l'apprendre et sans savoir qu'ils utilisent en fait la lecture froide et sont forcément nettement moins doués. Alors, quand on voit John Edwards, surtout que c'est sa propre émission, donc à l'editing, il coupe toutes les fois où il se plante et il sélectionne les meilleurs passages, bah John Edwards, il est vachement impressionnant, hein, quand on... Enfin, il a la technique et il sait se mettre en valeur. Et... Mais là, c'était vraiment la voyante du coin, enfin les médiums du coin, et c'était... Enfin, c'était pas très impressionnant, quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment. Enfin, c'est de la lecture froide, mais elle se foule pas, quoi. Enfin, il y en avait plusieurs, hein, mais. Je veux dire, il y avait rien de. On se dit, mais comment est-ce que les gens peuvent y croire, hein, les clients? Il y a vraiment une volonté d'y croire, parce que. Quand on vous montre si vous regardez la série TV Le Mentaliste, le gars fait des choses impressionnantes en utilisant des techniques de mentalisme. Donc, comme la lecture froide, ces médiums, c'est vraiment, vraiment basique. Enfin, vous verrez les extraits, on verra les extraits qu'elle va inclure. Moi, j'ai vu évidemment l'enregistrement un peu brut de ces médiums. Et alors, aussi, troisième chose dont je voulais vous parler avant la discussion plus centrale, c'était que plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire que c'était dommage que les vieux épisodes du balado soit effacé d'Internet carrément, parce que je l'ai supprimé complètement au fur et à mesure que je rajoute des nouveaux épisodes dans le feed du balado. Bah, je supprime les plus vieux, et donc plusieurs personnes m'ont contacté pour me donner un coup de main de ce côté-là, entre guillemets, avec finalement l'aide de Jean-Marc Donadieu, alias Nemrod. Alors je sais que les gens poussent parfois des cris d'horreur en entendant Nemrod, parce que bon, il a un mode de communication assez agressif sur le net. Bon, on peut rien y faire, hein. Personnellement, je pense qu'il devrait être beaucoup plus raisonnable dans sa manière de communiquer sur l'ufologie. Donc Jean-Marc Donadieu, avec qui je suis copain via le forum Sceptique OVNI, on a créé donc un nouveau blog qui s'intitule Les archives du balado scepticisme scientifique. Et donc dans ces archives, je vais mettre au fur et à mesure les épisodes que j'efface d'un autre côté. Donc dans le feed actuel du balado, les épisodes continueront à être effacés au fur et à mesure. Mais dans les archives, si jamais vous voulez les mettre en lien dans une discussion, dans un débat que vous avez, les archives continueront. Ou si vous voulez réécouter des vieilles interviews, etc. C'est vraiment ça, hein, l'important, c'est principalement la bande du forum Sceptique OVNI, qui a d'ailleurs changé de nom récemment. Donc, le forum s'appelle maintenant UFO-Scepticisme. Donc la bande UFO-Scepticisme. Elle regrettait surtout qu'il y ait les interviews d'Éric Maillot, de Jacques Scorneau, sur l'ufologie. Et bon, c'est vrai que ça forme une base de données qu'il est un peu dommage de perdre au fur et à mesure qu'on l'effacerait. Ce que je peux comprendre, hein. Personnellement, j'ai toujours eu le projet aussi de faire des transcriptions des meilleures interviews du balado et d'en faire un livre via lulu.com, mais j'ai pas le temps de faire les transcriptions, donc... on n'a jamais trouvé vraiment de personne qui serait partante, ou même en se partageant le nombre de transcriptions à faire de réaliser ce travail. Bon, je suis bien le premier à me rendre compte, enfin, parce que j'ai fait assez de transcriptions dans ma vie pour le savoir que ça prend énormément de temps. Mais c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, si on pouvait transcrire les meilleures interviews, quand on en avait parlé avec la bande de UFO-Scepticisme, on s'était dit transcrire juste les épisodes, enfin les meilleures interviews consacrées à l'ufologie, et comme ça on ferait un volume ufologie, les meilleures interviews du balado, via lulu.com. Enfin bon, jusqu'à présent ça ne s'est jamais fait, ce qui est un peu dommage, parce que personnellement je trouve que ça vaudrait la peine d'aussi sauver ces interviews sous forme papier, et pas seulement sous forme audio, ne serait-ce que pour pouvoir les citer dans la littérature par la suite. Tout ça pour dire, si vous avez besoin de consulter les archives, je suis en train de uploader sauvagement dans les archives. Vous tapez dans Google les archives du balado scepticisme scientifique. Alors l'adresse est à scepticisme scientifique en un mot, point C, la lettre C, c'est moi, comme moi, point CC. Et vous tombez sur, de toute façon, le lien est sur mon blog, hein, forcément. Et vous tombez donc sur les épisodes. À l'heure actuelle, j'en ai déjà uploadé 15 et je vais essayer d'uploader en tout cas tous ceux que j'ai pour rattraper mon retard, puisque j'avais déjà supprimé à peu près 25 épisodes, je pense. Donc je vais remonter, essayer de rattraper pour que les deux blogs soient sur le même rythme. C'est-à-dire que quand j'efface un épisode sur un blog, bah, je le rajoute directement de l'autre blog. Sur l'autre blog, c'est juste une sorte de transfert des épisodes d'un blog vers les archives, vers le blog d'archivage. Un mot à propos du scientisme. Bah, je voulais en parler parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui revient souvent, on traite souvent les sceptiques de scientistes, mais j'ai l'impression que les gens ne savent pas très bien ce que ça veut dire scientiste. Pour moi, souvent, quand on me traite de scientiste, ça veut dire vous êtes fan de la science, ou vous citez beaucoup la science, ou vous parlez beaucoup de science. Oui, mais ok, mais scientiste, c'est pas ça, hein. Alors déjà, il faut savoir qu'en philosophie, il y a très peu de... Enfin, scientiste est plutôt une insulte qu'on utilise pour décrier les gens. On dit, oh, tel philosophe est un philosophe scientiste. Alors, il faut savoir que, bon, comme souvent, les termes, c'est comme le terme sceptique, etc., les termes qu'on utilise pour insulter les gens, certaines personnes essayent de les valoriser. C'est vrai que maintenant, il y a quelques philosophes qui utilisent le terme scientiste en essayant de lui donner une connotation positive. Je ne veux pas en discuter aujourd'hui parce que ça nous emmènerait trop loin, mais le scientisme, c'est une posture qui consiste à dire que la science peut répondre à toutes les questions et que toutes les questions auxquelles la science ne pourrait pas répondre ne présentent pas d'intérêt, voire même n'ont pas de sens. Bah, évidemment, moi je ne suis pas du tout scientiste. Vous le savez que j'ai étudié la philo. Bah, typiquement, des questions auxquelles ne peut pas répondre la science sont des questions philosophiques. Par exemple, les questions morales. Bon, là, c'est la deuxième raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'évidemment, Sam Harris, l'athée américain, dans ses derniers bouquins, défend la position contraire. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve avec des sceptiques et des athées qui défendent cette position qu'en fait, la science pourrait répondre à des questions morales. Mais en fait, ça, c'est faux, parce qu'on ne peut pas, on peut pas déduire d'un état de fait une obligation morale. C'est pas parce que quelque chose est, c'est une formule de Hume, hein, David Hume, qui est d'ailleurs un des pères fondateurs du scepticisme moderne. Enfin, on ne peut pas détruire d'un est à un je dois, ou d'un je suis un je dois. Mais ça veut juste dire que la science peut décrire l'état des choses, mais elle ne peut pas dire ce qui devrait être. Un des exemples classiques de ça, c'est un argument fallacieux qui s'appelle naturalistic fallacies. Oui, donc c'est le raisonnement fallacieux de la par la nature. Et c'est un argument fallacieux qui dit, bah, parce qu'on trouve des choses dans la nature, alors c'est bon. Par exemple, les chrétiens l'employaient avant, on disait, ah oui, mais vous voyez, l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'existe que chez les êtres humains, et donc c'est contre nature. Vous voyez, l'expression contre nature, c'est typiquement cet argument fallacieux de la nature. Alors évidemment, il y a un problème empirique qui est que dans la nature, maintenant, les naturalistes et les biologistes, etc., ont mis en évidence qu'on trouve énormément de comportements homosexuels, bah, chez les chimpanzés, etc. Et alors, certains athées, donc certains scientifiques aussi, qui ont tendance à tenir des discours anti-philosophiques, que la philosophie, ça sert à rien, c'est une perte de temps, la science peut répondre à tout, ce qui est vraiment une position scientiste, là, bah, ils disent, voilà, c'est faux, puisque... on voit qu'il y a des comportements homosexuels dans la nature, donc on ne peut pas condamner l'homosexualité d'un point de vue moral. Ben, c'est encore ce même argument fallacieux. On sait en philosophie que ce n'est pas un bon argument. Pourquoi? Parce qu'on trouve tout et n'importe quoi dans la nature. Je vais prendre un autre exemple. La menthe religieuse dévore son mari après s'être accouplé avec elle. Si je suis l'argument de ces athées qui disent, ah ben on peut déduire qu'il est ok moralement que l'homosexualité est acceptable moralement du fait qu'on trouve des comportements homosexuels dans la nature, bah on peut dire, ah bah puisqu'il est ok pour la menthe, enfin on trouve dans la nature que la menthe religieuse dévore son mari après les relations sexuelles, alors bah c'est ok pour les femelles humaines de tuer leur mari après s'être accouplé avec. On voit bien tout de suite l'absurdité de ce genre de discours. On ne peut pas déduire d'un état de fait dans la nature des obligations morales. De toute façon, la morale, j'ai généralement essayé de poser un idéal et pas de dire ah ben les choses sont comme ça maintenant et donc on peut rien y faire. Et donc oui, je pense que Sam Harris, et bon, il s'est fait rentrer dedans par tous les philosophes quand il a écrit son dernier bouquin, enfin un de ses derniers bouquins, parce qu'il en a écrit encore un après sur le libre arbitre. Mais là, son avant-dernier bouquin où il affirme, déjà il parle de la science et il dit la science peut répondre aux questions morales, mais pas en science, il entend discours rationnel. L'usage qu'il fait du mot science va au-delà de ce que la science. Donc ça, on va rapidement discuter de distinction entre philosophie et science. Mais donc s'il dit, si vraiment on défend la position que la science peut répondre aux questions morales, c'est vraiment, c'est qu'on n'a pas compris la philosophie tout simplement. Je veux dire, c'est vraiment une erreur basique que tous les élèves de première année de philo devraient éviter. C'est comme si on disait, ah ben, on va étudier le cerveau des mathématiciens, on va leur demander de faire des équations et on va observer leur fonctionnement cérébral. Vous allez apprendre plein de choses sur le fonctionnement cérébral des mathématiciens, mais ça ne vous donnera aucune information sur la vérité de leur démonstration mathématique. Vous aurez juste l'activité cérébrale de ces mathématiciens. Or, c'est exactement la posture que défend Sam Harris, mis à part justement qu'il a un emploi très bizarre du mot science. Et donc là aussi, je vais rapidement discuter, c'est quoi la différence entre la philosophie et la science? Ben, la science, c'est empirique par nature, ce qui est intéressant, parce que ça veut déjà dire qu'on doit faire une distinction entre les mathématiques et la science, hein. Les mathématiques, c'est pas de la science. Les mathématiques sont utilisées en science, mais c'est pas de la science, parce que la science, la définition de la science, implique quelque chose d'empirique. Alors évidemment, l'aspect empirique peut être très, très différent, ça peut être des expériences. Ça peut en sciences humaines, ça peut être des questionnaires, ça peut être du labo, ça peut être de l'observation sur le terrain. En psychanalyse, ça va être, ils vont prétendre que c'est la thérapie, enfin le cabinet de thérapie, etc. En tout cas, pour faire science, il y a un moment d'observation empirique, quelle que soit la forme que prend cette observation empirique. La philosophie, c'est quoi? Ben là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a pas, il peut y avoir une composante empirique en philosophie, mais en général, il n'y en aura pas. C'est plutôt l'exception que la règle. La philosophie, moi j'ai tendance à dire ces trois choses. La première chose, bah, c'est construire des systèmes philosophiques, c'est-à-dire des discours rationnels et cohérents. Donc ça veut dire que l'objectif du philosophe qui construit, son objectif, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire de ne jamais se contredire lui-même. Et quand on fait des grands systèmes, comme le système hégélien ou le système de Kant, etc., c'est ces gens-là qui construisent des systèmes phénoménaux. Enfin, je veux dire, énormes systèmes. Leur but, c'est d'être parfaitement cohérents et de ne jamais se contredire. Ils doivent tout le temps établir des principes et s'y tenir au fur et à mesure, quel que soit le domaine qu'ils abordent. La deuxième chose, c'est la discussion avec les gens qui ont pensé par le passé. On a des écrits de philosophes qui remontent, j'ai envie de dire, jusqu'à la nuit des temps. Enfin, traditionnellement, on dit à partir de Socrate. Et puis, bon, moi, j'aurais tendance à dire à partir de l'hindouisme, en fait, hein, en Inde. Si on prend la philosophie extrême-orientale, donc, enfin, il y a eu de la philosophie un peu partout dans le monde, même si on a tendance à attribuer enfin, la philosophie occidentale, on dit que ça remonte à Socrate, mais même pour Socrate, il y a eu des pré-socratiques comme Pythagore. Mais donc, il y a eu des tas d'auteurs, et bon, qui, à travers des cultures, donc des visions du monde différentes, ont réfléchi à toute une série de questions. Et alors, on dialogue avec eux, ben, en lisant la littérature et en l'analysant et en la commentant, en fait, c'est une sorte de dialogue intellectuel. On peut toujours aujourd'hui dialoguer avec Socrate, ou avec Saint Thomas d'Aquin, ou avec Nishida Kitaro au Japon, ou avec Nagaryuna en Inde. Donc, cette notion de dialoguer avec les gens qui ont pensé ailleurs et à une autre époque, donc autrement. Bah, évidemment, on peut aussi dialoguer avec les gens qui pensent aujourd'hui à la même époque et dans la même zone que nous, mais je dirais une des forces de la philosophie, c'est justement de dialoguer avec des gens qui étaient dans des visions du monde extrêmement différentes de la nôtre. Et donc la troisième composante de la philosophie, ça va être affiner les concepts, hein. On essaie de mieux comprendre ce qu'on met derrière les mots qu'on emploie, les notions qu'on emploie. C'est un peu la tendance des philosophes à couper les cheveux en quatre ou à vous dire, qu'est-ce que vous voulez dire par ça exactement? Donc, les trois, je dirais pour moi, les trois grandes activités de la philosophie, c'est, pour récapituler, dialoguer avec les grands intellects du passé, construire des discours qui sont intrinsèquement cohérents et affiner les concepts. Mais donc, évidemment, c'est très différent de la science qui a une composante empirique. Alors, oui, on trouve de la composante empirique dans certaines sections de la philo, comme l'anthropologie philosophique, où le philosophe utilisera l'introspection, observera ses propres volitions. Oui, maintenant, il y a aussi un domaine qui s'appelle la philosophie expérimentale, où les philosophes font des expériences, bon, qui est sujette à beaucoup de débats. Est-ce que c'est vraiment encore de la philosophie ou pas? Mais donc, massivement, enfin, la science est empirique, là où la philosophie n'est en général pas. Alors évidemment, ma position que la philosophie peut et se doit, pour moi, être informée par la science, et inversement, que la science doit utiliser la philosophie pour avoir des discussions méta sur ce qu'elle fait, mais ça ne fait pas que la science et la philosophie soient la même chose. Et une fois qu'on défend cette position qui consiste à dire que science et philosophie sont deux choses complémentaires, eh ben on n'est plus scientiste. Okay? Évidemment, bon, quand Samaris utilise la science pour dire discours rationnel, ben, il confond, enfin, en fait, il amalgame philosophie et science, il n'est plus dans. Oui, avoir un discours rationnel sur les questions morales, oui, bah oui, ça pour un nom, c'est de la philosophie morale. C'est pas de la science. On sera peut-être amené, enfin certainement amené à en reparler sur le balado, surtout que Massimo Pigliucci vient d'avoir un nouveau livre sur le sujet qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle Answers for Aristotle, donc des réponses pour Aristote, qui vient de sortir aujourd'hui. Justement, Aristote était quelqu'un d'assez intéressant pour le sujet de l'articulation science et philosophie, puisque on le connaît pour le plus, un des, si pas le plus grand philosophe. Hein. Vous savez que la philosophie, au départ, elle a été scindée d'un côté que les platoniciens et les aristotéliciens de l'autre. Mais Aristote, bon, il a créé la métaphysique, etc. Enfin, les grands domaines de la philosophie qu'on utilise aujourd'hui, oui, mais son boulot réellement, c'est surtout de la bio, en fait, de la biologie. Hein. C'était un naturaliste, il observait la nature. Et donc, d'une certaine façon, il est aussi l'initiateur de la méthode scientifique. Et donc, c'est justement un exemple de philosophe qui. Donc, les spécialistes d'Aristote disent que sa physique est largement. A été là, donc, sa théorie physique a été largement créée pour répondre sur base de son activité de biologiste. Hein. Je ne suis pas un spécialiste d'Aristote, mais. Donc voilà, on verra ce que. Évidemment, je n'ai pas encore lu le livre de Massimo Pigliucci qui vient de sortir, mais si je le lis, je suppose que j'aurai de nouveau du matériel pour discuter de cette question de l'articulation entre philosophie et science. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. It was the best game ever. The traps and riddles were so clever, and hardly any of our party even died. Except for George, but he deserved it. He kept doing really dumb shit. When we split his magic items up, I swear to God he almost cried. And when he came back in the game with his new gnome thief mage assassin, we took all his stuff again and sold him as a slave. The best game ever. This was the best game ever. I took his set of plus four leather. Then we hopped on board the plot train, let it take us for a ride. But then George came back, and this time he was a druid who refused to leave the forest and always tried to start a fight. And that's exactly what he did with this poor farmer on the outskirts of the town, who turned out to be a god in disguise. Best game ever. 'Cause George's druid's head got severed, and when he came back in the game, we were all going through this cave to slay a dragon. But this time he was a barbarian who hated both magic users, but he had a sword of magic flames. And when we reached the dragon's lair, he argued tactics for an hour till we fed him to the
the dragon, then we beat it in three rounds. Best game ever. In town, inside the tavern, George was there as a half-elf, half-orcish monk illusionist. And as we counted out our treasure, he insisted on attempting to seduce the barmaid, laughing as she cried and raised her fist. Till we stood and picked our weapons up, and as he died, he swore he would never play this game with us as long as he lived. Best game ever! Saved a barmaid, slayed a dragon, got some treasure, raised a flagon, and we split up some XP, and we will never have to deal with George's bullshit in another game again. That is, at least until next week, because he is the DM's brother, and his mom won't let us game here in their basement anymore unless we say that he can play. And yeah, I know you had to be there, but I swear to all that's holy, victory was never sweeter than it was today. Best game ever.